Eh bien, nous reprenons, chers auditeurs de Radio Courtoisie, avec le pasteur Joly, Alain Joly, concernant effectivement les apparitions de Pâques, illustrées par ces magnifiques compositions musicales de Jean-Sébastien Bach. Nous en étions à la première apparition aux apôtres réunis, il n'y a pas Saint Thomas. J'aurais quelques questions, aussi quelques précisions à demander au pasteur Alain Joly sur cette apparition proprement dite qui est importante. Nous avons d'autres messages d'auditeurs. Alors un auditeur qui vous pose cette question, monsieur le pasteur, ne pourrait-on pas dire que dans la théorie de la consubstantiation, le double des espèces correspond à la double nature du Christ humaine et divine ?
C'est bien vu, je pense que c'est une intuition juste. Elle est peut-être pas initialement celle que les théologiens du Moyen-Âge et Luther, quand il en fait le choix, avaient accentué. Mais c'est assez intéressant, je trouve, pour la dimension de présence de Jésus. Sauf que le pain et le vin qu'il désigne effectivement comme étant son corps et son sang ne sont pas son corps de l'incarnation et son sang de l'incarnation. D'ailleurs, c'est pour ça que ça peut être des hosties et du vin blanc et pas du vin rouge.
Et puis un auditeur, monsieur le pasteur, dissèque les Écritures quant à la résurrection de Christ, mais celle-ci n'est-elle pas dans le couple Saint-Suaire-Évangile ?
C'est très intéressant d'amener le Saint-Suaire dans la perspective d'une compréhension de la résurrection. Je suis pour ma part assez convaincu par les commentaires de scientifiques et historiques qui sont réunis, entre autres, par Jean-Christian Petit-Fils dans un livre récent, et bien sûr par d'autres savants. On n'a pas besoin du Saint-Suaire pour croire en la résurrection, mais si le Saint-Suaire est véritablement celui de Jésus, il peut conforter notre foi. Et nous pouvons contempler alors l'image sacrée de celui qui a donné sa vie pour nous. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'on ne voit pas que le visage, on voit tout le corps, y compris dans le côté peut-être de misère de notre corps. Il y a les humeurs, par exemple, qui sont vraiment sur le suaire. Et puis, beaucoup d'indices, c'est pas nécessaire, c'est pas notre émission aujourd'hui, mais ça peut être non pas un complément pour notre foi, parce qu'encore une fois, d'abord, autrefois, beaucoup de gens n'avaient aucune idée que le suaire subsistait, ni même ne l'avaient vu, ou ceux qui l'avaient vu le critiquaient. Mais il peut être un ajustement pour mieux comprendre la réalité des souffrances du Christ et le fait que son corps, dont il n'y a qu'une trace d'image, est sorti de ce suaire. Il n'y a rien de charnel dans le suaire, il n'y a aucun morceau de chair, il n'y a pas un cheveu, un ongle, il n'y a rien. Le suaire n'est pas non plus arraché avec les plaies, par exemple. Donc le corps est sorti dans une vérité entière, voilà, que conforte donc les travaux récents, internationaux d'ailleurs, de scientifiques, pas forcément croyants, ce qui est très touchant, au sujet de ce linge vénéré depuis plusieurs siècles.
Monsieur le pasteur, pour en revenir à cette apparition au soir de Pâques, en présence donc des disciples d'Emmaüs, des 11 moins saint Thomas, pouvez-vous repréciser l'envoi en mission, la mission dont parle le Christ ce soir-là, oui, c'est celle de pardonner les péchés.
Et je précise encore, vous mélangez avec les pèlerins d'Emmaüs. C'est vrai que les pèlerins d'Emmaüs, quand ils arrivent, le Seigneur va apparaître ensuite en leur présence aussi, mais c'est le témoignage de Saint-Luc. Avec l'histoire de Thomas, il n'y a que les apôtres, c'est-à-dire ils sont 10 soir-là.
Il n'y a pas sur Thomas, il n'y a que les apôtres.
Que les apôtres. D'accord. C'est très important parce que c'est ceux que Jésus a choisis pour les envoyer. Apôtres veut dire envoyer. C'est eux qui auront la charge de témoigner de la bonne nouvelle de Pâques. Avec leurs collaborateurs, qui sont les disciples alors, et les saintes femmes, et tout ce qui l'on voudra, et nous. Mais là, c'est uniquement le collège, le mot n'est pas adapté pour la réalité de l'époque, mais institutionnalisé. C'est le collège des apôtres. Il n'y a que eux, il n'y a même pas les servantes, ou je ne sais qui, le petit frère, voilà.
La question, c'est qu'il leur remet l'Esprit Saint.
Oui. Alors il leur remet
comment
le souffle,
ça se conjugue par rapport à la Pentecôte.
Et il leur dit, il faut être très strict là sur le témoignage de l'évangile de Saint Jean. Il souffle, donc Jésus souffle, c'est-à-dire qu'il libère quelque chose qui est à l'intérieur de lui-même. Une ruach, auraient dit les anciens hébreux, hein, avec le mot hébraïque pour dire le souffle, et donc l'esprit. Et il dit à eux, recevez le Saint-Esprit.
Oui.
Donc le souffle est accompagné de la parole, mais ça c'est très sacramentel, hein, vous savez. La présence de Jésus, c'est à la fois quelque chose de sensible et une parole qui l'explicite. Recevez l'Esprit Saint. Ouh, recevez l'Esprit Saint. Disons que c'est pas muet. Et tout de suite après, et c'est la seule fois, je l'ai dit tout à l'heure, où il est question de pardon des péchés dans tout l'évangile de Saint Jean, et c'est quasiment les derniers versets, il y en a quelques autres après avec Thomas, bien sûr, mais c'est assez étonnant même, parce que dans les discours de Jésus, il n'est pas question de cela, ni même dans sa relation avec les apôtres, jusqu'à présent. Et là, il leur dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors très souvent, on s'engouffre sur la première partie de la phrase, puis on oublie la deuxième. C'est-à-dire que les apôtres peuvent retenir le pardon des péchés. C'est important, ça. Ça veut dire qu'il y a du discernement. Ça veut dire que c'est pas à la cantonade, mais oui, Jésus vous aime, c'est formidable, faites n'importe quoi, de toute façon, vous êtes pardonné. C'est pas du tout ça. C'est une prise au sérieux de ce pourquoi Jésus est mort. Il a donné sa vie afin que nous soyons libérés de la mort, du péché, du diable et de toute forme d'agression qui empêche le projet de Dieu d'être dans sa splendeur. Et c'est confié à ces, excusez-moi l'expression, à ces minables de l'instant qui sont frileux, qui ont peur, qui n'ont rien reconnu, etc. Et qui sont pourtant nos pères dans la foi, nos aînés. C'est à eux que Jésus a fait confiance pour donner, alors ce que vous appelez le sacrement de pénitence, mais qui est plus que ça, parce que c'est confié finalement donc aux apôtres, donc à l'Église. C'est l'Église qui en est dépositaire. L'Église est dépositaire d'un message de quoi ? Du pardon des péchés, mais une prise au sérieux du pardon des péchés. C'est-à-dire qu'on ne cautionne pas les tyrans, les monstres, les choses mauvaises que nous savons faire, nous aussi, à notre petite mesure. Non, le pardon de Dieu, c'est initié par l'Esprit Saint. C'est pas l'Église qui l'invente, c'est l'Esprit Saint qui, avec la parole de Jésus, confie à l'Église le témoignage du pardon. Et il faut le dire comme ça, c'est pas que la pénitence, battre sa culpe, c'est le pardon. Qui donne le pardon ? C'est Dieu. D'ailleurs, le prêtre ou le pasteur, nous faisons ça aussi, nous, hein, les protestants et luthériens, entre autres, les anglicans aussi, nous attestons du pardon de Dieu. Je dis, ben, c'est moi, le pasteur, qui te pardonne. Bien sûr, entre frères, dans l'offense, nous sommes incités à nous pardonner mutuellement. Mais là, il s'agit du pardon de Dieu. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ceux à qui vous écarterez l'abîme de mauvaiseté qu'est le péché dans l'homme. C'est-à-dire ceux à qui vous attesterez que le Christ est mort pour le pardon des péchés.
Alors, monsieur le pasteur, souhaitez-vous nous faire profiter de votre choix d'une troisième pause musicale, ou souhaitez-vous évoquer l'apparition du Christ suivante, cette fois-ci au 11, en présence de saint Thomas?
Eh bien, on va faire les deux, mais d'abord la musique. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent entendre encore un extrait de la musique de Sébastien Bach. J'ai choisi une cantate de 1724 aussi. C'est la première année de plein exercice de Bach à Leipzig. Donc pour les églises luthériennes de la ville, en ce temps-là, tout le monde est luthérien. C'est dans la cantate 66, la numérotée BWV 66, Erfreut euch, hier Herzen, ça veut dire cœur, réjouissez-vous. J'ai choisi le numéro 5, qui est un aria en duetto, comme on dit, de deux voix, la voix d'alto et la voix de ténor, accompagnée du violon solo et du continuo. donc très, un effectif très très réduit, qui est un dialogue entre la crainte et l'espérance. Alors c'est un texte anonyme, comme il y en avait beaucoup de livrets pour les musiciens d'église, ils devaient composer sur des livrets, dont les auteurs ne sont pas forcément toujours connus, et peu importe d'ailleurs, sont des livrets qui sont à disposition, et qui évoquent bien le ressenti des croyants dans le temps de Pâques, pour ce cas précis. Alors, la crainte qui est chantée à la voix d'alto, et l'espérance à la voix de ténor, échangent sur cette idée d'accepter la victoire de Jésus. Je craignais ou je ne craignais pas, selon la crainte et l'espérance. Je craignais ou je ne craignais pas, ou au présent même, je crains, je ne crains pas, les ténèbres du tombeau, et je me plaignais, j'espérais, ou bien au présent, je me plains et j'espère, que mon salut me soit maintenant arraché ou ne me soit pas maintenant arraché. Donc il y a toute une idée de lutte. Voilà. Finalement, c'est notre combat intérieur, hein. Ces deux voix-là. Et puis, ensemble, elles vont chanter, ensuite, « Nun ist mein Herz voller Trost », la consolation. « Maintenant, mon cœur est rempli de consolation. »« Voller Trost ». Et d'où vient la consolation de Jésus, bien sûr. Hein. « Maintenant, mon cœur est rempli de consolation. » Et même si un ennemi m'irrite, je veux vaincre en Dieu. « Will ich in Gott zu siegen » Je veux savoir, même savoir vaincre, siegen wissen, je saurai vaincre en Dieu. Je vous laisse être touché par cette danse des deux voix, alto et ténor, et du violon solo. Et j'ajoute que dans la convention, d'écriture musicale à l'époque de Bach, c'est pas une spécialité chez lui, ça existe chez d'autres musiciens aussi. Le violon, c'est une figure du Christ, c'est une image du Christ. Le violon, ici, accompagne justement l'âme qui est tiraillée, qui est en tension entre son espérance et puis cette espèce de retenue de la crainte. Et ça correspond très bien à ce qu'ont vécu les apôtres. Voici donc, avec l'ensemble de Masaaki Suzuki, Bach Collegium Japan, un extrait de la cantate pour le lundi de Pâques.
Pasteur Alain Joly, je vous propose maintenant d'aborder l'apparition suivante, la quatrième en l'occurrence, celle aux 11 apôtres, dont cette fois-ci Saint Thomas, c'est 8 jours plus tard. Il se passe, que se passe-t-il pendant 8 jours d'ailleurs? On ne sait pas, ce n'est pas, pas précisé.
Et puis, moi j'ai l'habitude de dire, si ça ne nous est pas rapporté, c'est que ce n'est pas nécessaire pour la compréhension du salut. Ce n'est même pas salutaire en soi. Tout ce qui est dit dans l'Écriture doit nous toucher, nous interpeller, nous devons l'accueillir, même quand c'est difficile. Mais si des choses ne sont pas dites, on n'en a pas besoin.
Vous avez aussi une explication intéressante, monsieur le pasteur, si vous le permettez, concernant les différences qu'il y a entre les évangiles.
C'est-à-dire que les rédacteurs d'évangiles ne se connaissent pas forcément au moment où ils rédigent leur texte. Luc et Jean, par exemple, ne sont pas en présence l'un de l'autre en disant « Est-ce que toi, tu as bien raconté la même chose que moi ? Tu te souviens qu'il avait dit ça ?» Non, chacun est dans son petit monde, en plus, culturellement, et pas géographiquement au même endroit, et pas forcément le même moment non plus d'écriture. Donc c'est important par rapport à leurs témoignages différents qui nous étonnent toujours parce que c'est pas toujours aligné, etc. Ou que ça semble contredire. Mais on avait le même problème avec la nativité, rappelez-vous. Matthieu et Luc ne racontent pas les mêmes histoires. Il y a la fuite en Égypte pour l'un, l'arrivée des mages, etc. Et pas pour l'autre. Il y a les bergers. Et puis c'est aussi un peu, j'allais faire une comparaison un peu excessive, mais les compagnons de Napoléon à Sainte-Hélène, quand ils racontent leur mémoire, quelquefois, alors très souvent ça concorde très bien, mais quelquefois quelqu'un a retenu une parole qu'a dite l'empereur ou un épisode et puis pas les autres. Et on se dit, tiens, pourquoi à cette date-là, finalement, il a fait autre chose. Bon, c'est un peu la même chose quand nous aussi on assiste à un événement dans la rue. Si on demande après à chacun d'être... On nous interroge, on dit « Qu'est-ce que vous avez vu ?» Chacun a un peu vu de son point de vue, de son...
Mais cela veut-il dire, monsieur le pasteur, que ceux qui rédigent les évangiles ne témoignent pas forcément donc, de la même chose, n'y accordent pas la même importance, et qu'ils ont des centres d'intérêt différents, finalement. Est-ce qu'il leur paraît important d'y faire ?
Peut-être parce que, effectivement, j'aime bien cette idée de centre d'intérêt différent pour chacun. En tout cas, c'est assez manifeste que les synoptiques, comme on dit, Matthieu, Marc et Luc, racontent quasiment la même chose. Il y a des oublis ou il y a des ajouts selon, mais on peut les mettre en parallèle, d'où le nom de synoptique. Et Jean a quand même une perspective théologique de revisiter toute l'histoire de l'Alliance, du peuple juif. Il y a quelque chose qui est théologiquement plus structuré. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de théologie, je ne dis pas ça, mais je dis qu'on sent bien qu'il échafaude une construction intellectuelle aussi dans son témoignage. Mais ce qui compte, c'est qu'au résultat, les quatre ont été reçus comme paroles authentiques de la part de Dieu. Ce sont des hommes qui ont été inspirés, mais qui les ont écrites. Et vous savez que certains manuscrits peuvent aussi provoquer des débats, des polémiques, parce qu'un manuscrit très ancien n'aura pas rapporté un verset ou aura mal orthographié quelque chose. Et puis alors, lequel il faut donc retenir, scientifiquement parlant, c'est un peu égal, parce que c'est la foi de l'Église qui a énoncé que ces témoignages-là nous disent la vérité de qui est Jésus et de quelle manière il nous sauve. C'est l'ensemble qui nous sauve, c'est pas une lettre, c'est pas un mot, c'est pas un épisode qui serait contradictoire avec un autre, c'est le récit en son ensemble. Et ensuite, les quatre évangiles, et même tout le Nouveau Testament, et même, bien sûr, la Bible hébraïque, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, qui forment, avec des écritures différentes, avec des auteurs inspirés, le corpus suffisant pour entendre Dieu nous dire la vérité.
Alors je propose d'évoquer cette nouvelle apparition en présence de saint Thomas, monsieur le pasteur.
Dans l'évangile de saint Jean, toujours, donc chapitre 20, c'est la suite donc du souffle, recevez l'Esprit Saint, et cette histoire de remise ou non des péchés. Or, on est au verset 24, « Or Thomas, un des 12, surnommé Jumeau, n'était pas avec eux quand est venu Jésus. Les autres disciples lui disent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Il leur dit, si je ne vois dans ses mains la trace des clous, si je n'entre mon doigt dans la trace des clous, si je n'entre ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Alors je fais une pause là. C'est assez formidable, forme d'autorité. Non, je ne croirai pas. J'ai dit tout à l'heure, je répète, que ce n'est pas un doute quant à l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est je ne veux pas croire parce que vous me racontez quelque chose. C'est sa manière de réagir. Ça ne me suffit pas. Votre témoignage ne me suffit pas, leur dit-il. Ah, ce sont ses camarades. Là, on est dans la semaine, sans doute. Hein. C'est pas le jour. Le jour n'est pas dit. Ben oui, c'est peut-être dans la suite, Jésus est parti, il arrive, oh, j'étais en retard, j'étais à la boulangerie, ou le lendemain, peu importe. Maintenant, c'est 8 jours après. Verset 26, 8 jours après. 8 jours après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un autre dimanche, c'est un autre lendemain de Shabbat. On est dans le commencement d'une nouvelle semaine. Et ceci va être décisif parce qu'il manquait quelqu'un au collège apostolique, de même qu'il manquera, bien sûr, avec l'absence de Judas, l'élection de Matthias, et qu'il faudra que Matthias soit élu pour que le collège apostolique soit reconstitué, afin que le Saint-Esprit descende à Pentecôte sur la totalité de ce qui va être le fondement de l'Église. 8 jours après, donc, les disciples sont de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes fermées, il se tient au milieu et dit « La paix soit avec vous ». Il dit ensuite à Thomas, vous voyez, ce n'est pas une parole générique en disant vous, tout de même, vous n'avez pas été convaincant pour Thomas. Non, il parle à Thomas tout de suite. On pourrait même dire, c'est étonnant, comment sait-il que Thomas veut croire en touchant? Mais parce que c'est le Seigneur. Il dit ensuite à Thomas, « Porte ton doigt ici et vois mes mains. Porte ta main et entre dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais croyant. » Souvenez ce qu'il a dit, « Si je ne vois, voir dans ses mains la trace des clous. » Ça peut être à distance. Jésus lui dit, « Vois mes mains. » Mais il y a aussi, « Si je n'entre mon doigt dans la trace des clous. » Porte ton doigt ici, porte ta main et entre dans mon côté. Parce que, aussi, si je n'entre ma main dans son côté. Donc Jésus consent à ces trois choses. Voir ses mains, entrer son doigt dans la trace des clous et entrer sa main dans son côté. L'a-t-il fait, selon vous? Ben non. Non, il ne le fait pas. Tout de suite, Thomas répond et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Vous voyez, qu'est-ce qui a provoqué la foi de Thomas? Il n'a pas touché. Il a même la vue et même pas sollicité. Il a cru sur la parole que Jésus lui a adressée.
Et pourtant, monsieur le pasteur, la peinture du Caravage montre Saint Thomas avec une tête de bandit, d'ailleurs.
Ouais, en plus.
Il a une tête de bandit napolitain, soucinaire, tout ce que vous voulez, qui pose ses mains sur lui.
C'est l'environnement du Caravage. C'est le Caravage en toute sa splendeur des bas-fonds de Naples et d'autres endroits. Et c'est formidable, d'ailleurs. Hein. Je ne critique pas, je dis c'est extraordinaire, le monde du Caravage est plein de violence et de l'humanité dans la splendeur de ses misères, si on peut dire. Mais l'évangile est très clair. Thomas ne touche pas le corps de Jésus.
Donc le Caravage se trompe,
bien sûr,
dans cette mise
en scène. Et tous les autres artistes, si jamais il y en a qui le font. Mais je connais bien ce tableau, alors nos auditeurs, il faut qu'ils l'imaginent. Oui. Il y a Jésus et Thomas qui se penche avec cet air, comme vous dites, de bandit, là, qui veut vraiment soupçonner, ça. Et qui, son doigt qui rentre dans la plaie béante là, du côté. Alors c'est la plaie de la lance. Et puis il y a deux autres corps qui sont derrière, qui ont l'air très... Enfin, personne n'a l'air très à l'aise dans toute cette histoire. C'est une vision d'un artiste, pourquoi pas. Mais le texte de l'évangile ne met pas en scène de cette façon-là. D'abord, Thomas est un jeune homme comme les autres, là, de l'entourage de Jésus. Il devait plutôt avoir une bonne mine. Moi, je ne vois pas pourquoi ce serait un bandit. Et vous vous rendez compte que c'est lui qui, après la résurrection, je laisse les sœurs de Lazare, mais c'est le seul et premier qui dit dans tout l'évangile de Saint Jean, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est notre aîné dans la foi. Avez-vous bien mesuré cela, ami auditeur? Thomas est notre aîné. C'est lui qui a prononcé avant nous « mon Seigneur ». C'est son Seigneur à lui et mon Dieu. Seigneur et Dieu. Même Saint Luc, qui pourtant va très loin dans la désignation de qui est Jésus, dit seulement, c'est dans le récit justement de la résurrection, le corps du Seigneur Jésus. C'est impersonnel. Là, Thomas, parce que Jésus lui a parlé et qu'il a consenti Et Thomas n'a pas eu besoin de toucher quoi que ce soit, ni même ses yeux, même s'il ne s'était pas porté sur les traces des clous, sa foi était prête et elle a jailli de son cœur et de son âme. C'est extraordinaire. C'est vraiment le premier d'entre nous. Il y a Pierre aussi, tous les autres gens, hein, je suis d'accord, et Marie-Madeleine et les saintes femmes, on est d'accord. Mais celui-là, il a dit à notre place ce que Jésus confirme par la béatitude qu'il prononce pour nous ensuite, parce que beaucoup de gens le considèrent comme une espèce de réprimande envers Thomas, là, parce que tu m'as vu, tu as cru, comme si on pouvait mettre un ton comme ça dans les paroles de Jésus. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai entendu ça. Des gens qui, quand ils disent, parce que tu m'as vu, tu as cru, hein, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous croyez que Jésus parle comme ça? Jésus parle avec douceur. Il dit, parce que tu m'as vu, toi, Thomas, tu as cru. Et donc il le récompense à quelque chose, c'est extraordinaire. Tu me vois et tu crois, voilà. Tu es le premier sur le chemin maintenant que l'Église va entreprendre sur la terre et jusqu'à la fin des temps. Et donc heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est qui? C'est nous. C'est vous, Monsieur Delcourt. C'est vous, les auditrices et les auditeurs. Et c'est moi. Et c'est tous les autres. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est une béatitude consolante, pacifiante. Jésus ne prononce pas des paroles de dureté envers les siens. Mais non.
C'est très important de comprendre cela, parce que finalement, on peut interpréter les paroles de Christ comme un peu une condamnation
oui,
de Thomas.
Mais non, il vient de dire...
Non, vous dites l'inverse, vous expliquez vraiment que c'est...
Et nous nous réjouissons d'avoir comme aîné dans la foi quelqu'un qui a eu ce doute et qui a cherché à voir les plaies du Christ. Parce qu'il a eu raison aussi. C'est pas le ressuscité dans le corps glorieux justement qu'on disait tout à l'heure qui est réel bien sûr, mais c'est le crucifié ressuscité. C'est le crucifié. Il a raison. C'est le meilleur théologien du groupe. C'est le meilleur théologien parmi les apôtres.
Et paraît-il le plus courageux des disciples.
En plus, voilà.
Qu'est-ce qui permet d'affirmer cela?
Ben parce qu'il a donné des comportements très plus courageux, plus audacieux que les autres dans certains récits qui précèdent. Ouais.
Bon, ce soir, Monsieur le Pasteur Joly, vous restaurez en quelque sorte la réputation de saint Thomas.
Oui. Et d'ailleurs, on l'appelle saint Thomas. On ne dit pas Thomas, on lui a accordé la sainteté parce qu'il a dit « Mon Seigneur est mon Dieu » et qu'il a été choisi de surcroît. Premièrement, il est choisi. Il doute, il est comme nous, il est insatisfait de certaines choses, mais il est bon théologien. Il sait que celui qui doit être le vainqueur pour la vie, c'est le crucifié. Donc, je veux voir, sinon je ne crois pas. Il l'a fait à notre place. Et du coup, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et du coup, ben nous sommes au bénéfice de sa proclamation de foi, qui est celle de l'Église.
Souhaitez-vous, monsieur le pasteur, que nous passions à une autre écoute de choix musical?
Oui, je vous propose maintenant de la cantate pour le jour de Pâques, sur un texte de Martin Luther, mais qui est imité d'une hymne médiévale, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, Victime Paschali Laudes, revisité en allemand par Martin Luther. C'est très intéressant d'ailleurs parce que Victime Paschali Laudes, qui va donc être le fondement, si on peut dire, de la construction de la cantate de Jean-Sébastien Bach pour le jour de Pâques, ce texte initial, Victime Paschali Laudes, qui est du milieu du Moyen-Âge, nous transporte tout de suite à la joie de Pâques. Mais Luther, lui, il va, comme il dit, Gebessert, augmenter, développer ce texte ancien quand il en donne la version allemande. Et les premiers mots sont « Christ était retenu dans les liens de la mort, livré pour notre péché, il est ressuscité ». Or, l'hymne médiévale précédente, qui sert d'origine, de source à ce texte de Luther, nous transporte tout de suite à la joie de Pâques, à la victime pascale que les chrétiens offrent le sacrifice de louange, etc. Et donc, il y a un renversement de perspective. Et elle est très juste, elle est comme Thomas. C'est pour ça qu'on l'entend maintenant, si vous voulez bien, amis auditeurs. Cette musique de Jean-Sébastien Bach sur le texte de Luther, qui revisite un vieux texte du Moyen-Âge, en allemand, nous remet la perspective que c'est bien le crucifié, celui qui est mort, celui qui était retenu dans le tombeau, que nous célébrons par la louange de Pâques. On ne fait pas un raccourci, allez, ça y est, c'est la joie de Pâques. On se souvient, quand on contemple le ressuscité, que c'est bien celui qui était dans le tombeau. Alors c'est en allemand, Christ lag in Todesbanden, Christ était retenu dans les liens de la mort. Je vous fais entendre la partie centrale, c'est une cantate qui est construite sur le choral de Martin Luther. La mélodie, vous allez l'entendre, c'est toujours la même d'ailleurs hein, dans la cantate, mais elle est sous différentes tonalités, les voix, les instruments et les textes bien sûr. Et c'est le centre, c'est une construction où il y a un centre décisif, justement on contemple le Christ qui a été au tombeau, notre propre, nos souffrances, notre mort, etc. Puis il y a un basculement, et qui est dans le numéro 5, donc, qui fait que la cantate va passer à la joie, à la louange de Pâques. Et le texte dit, c'est le texte de Luther en allemand, je le traduis, ce fut, mais c'est inspiré encore une fois de l'hymne médiéval, hein, donc comme quoi la continuité aussi, Luther qui aime le répertoire qui est de l'Église. Ce fut un combat étonnant quand Luther, la mort et la vie, quand on luttait la mort et la vie, la vie a remporté la victoire, elle a englouti la mort, l'Écriture l'avait annoncé, comment une mort allait dévorer l'autre, la mort est devenue objet de dérision, ein Spott en allemand, aus dem Tod, ein Spott, alléluia, double alléluia. Voilà, c'est un petit motet à quatre voix, soprane, alto, ténor et basse, et vous allez entendre que la voix d'alto, elle énonce le thème du choral, en cantus firmus, comme on dit, en si mineur, c'est un degré de dominante qui est plus élevé que l'ensemble de la cantate. On pourrait dire qu'il y a un dynamisme, il y a une vitalité dans cette façon d'annoncer le combat. Le véritable combat, c'est pas un claquement de doigts. La mort a englouti une autre mort. Il s'est passé quelque chose dans le ciel et sur la terre pour que le Christ soit vainqueur. Voilà comment Jean-Sébastien Bach le met en musique. Donc, c'est aussi très minimaliste dans le choix des instruments puisqu'il n'y a que le continuo sur les quatre voix. Normalement, on peut chanter avec quatre voix solistes et c'est à nouveau le Bar Collegium Japan de Masaaki Suzuki.
Monsieur Pasteur, une auditrice vous écoute avec passion.
Ça, c'est formidable.
Merci. Comment expliquer, vous dit-elle, le fait que le Christ entre dans une pièce par une par une porte. En fait, il traverse les murs. Est-il passe-muraille? C'est la question de votre, de votre admiratrice.
Mais pourquoi pas? Évidemment, ça évoque un auteur qui aimait parler de passe-muraille. Mais le Christ est le Seigneur Jésus. S'il lui plaît d'apparaître de la sorte en plein air ou dans un espace clos, il est bien capable de franchir tous les obstacles. Vous imaginez qu'il est frappé à la porte et qu'il est attendu qu'on lui ouvre. Il est vrai qu'il frappe à notre porte, ça c'est dans l'Apocalypse, hein, pour partager le repas du soir avec nous, donc l'Eucharistie. Mais voilà, c'est... J'ai rien de spécial à dire à ce sujet, sinon que nous l'avons évoqué un peu tout à l'heure, le corps de Jésus n'est pas rigoureusement le corps précédent. C'est le même parce qu'il a souffert la croix, les plaies sont visibles, il va manger, tout ça, mais il est déjà dans la transition du corps glorieux. Donc il a cette, puis il a cette capacité parce qu'il est le Fils de Dieu de passer les murs. Mais juste, excusez-moi, mais juste pour le moment des apparitions. Je veux dire, c'est uniquement dans, oui, dans ce cas précis. Plus rien après. Après, oui, par exemple, là, le chemin de Damas, c'est en plein air. Il n'y a pas un événement spectaculaire autre que Paul qui tombe par terre, parce qu'il a la vision de Jésus qui l'interpelle. Mais là, il n'y a pas de quelque chose de l'ordre du miracle ou du signe, voilà, que pourrait être franchir les portes verrouillées.
Une auditrice, d'après des études, le corps glorieux est le corps de vie ou corps éthérique transformé qui ne se détache qu'au moment de la mort. Le Christ montre la voie aux êtres humains qui sont appelés dans un lointain avenir à n'avoir ce corps comme premier corps, mais à développer parallèlement un corps plus spirituel.
Oui, c'est bien ça. Oui, c'est juste. Oui, un corps spirituel, c'est bien ça. Mais il y a quelque chose de charnel, la résurrection de la chair, c'est la foi de l'Église, hein, ne l'oubliez pas. Mais c'est évidemment une autre réalité aussi, une réunion de communion avec le Christ, elle est forcément une communion spirituelle, parce que quand il y a le Christ, il y a le Père et l'Esprit également. Et le corps est touché par cela. Il y a un toucher de l'Esprit qui fait que le corps n'est pas seulement celui mortel, dégradable, de l'ordre de la génération.
Alors, monsieur Pasteur, les deux apparitions suivantes se passent en Galilée. Tout d'abord au bord du lac de Tibériade, puis sur une colline de Galilée.
Oui. Alors, la première, avec le lac de Tibériade, on est toujours chez Saint Jean, c'est Jésus qui la provoque sans que les autres l'aient attendu. N'est-ce pas? Ils sont en train de faire la pêche, là, puis Jésus est sur le bord du rivage, il a préparé un petit...
Pardonnez-moi, ils ne sont pas tous ensemble,
il n'y a pas de chiffre, là. Il y a Simon et le disciple que Jésus aimait, encore et toujours, donc les deux mêmes, mais non, ce n'est pas le collège apostolique. Mais ce qui est très intéressant, c'est le petit brasier qu'a préparé Jésus, là, ce petit foyer, qui pour moi est un écho du buisson ardent, sur lequel Jésus a préparé les poissons qu'il va partager avec eux, alors qu'ils sont pêcheurs, ils sont en train de ramasser des poissons. Donc c'est intéressant, c'est Jésus qui prend l'initiative. Mais on pourrait dire que c'est un épisode pour eux. C'est pour conforter leur foi. D'ailleurs, vous vous souvenez, le disciple que Jésus aimait reconnaît, lui, de loin, il dit, mais c'est le Seigneur. En plus, il ne dit pas c'est Jésus, c'est le Seigneur. Et puis il plonge, et puis il se rhabille, etc. Bon. C'est pour eux. Cet épisode nous a rapporté pour conforter leur foi et dire qu'ils ont eu ce privilège de, en vue que nous ayons, nous, la foi, que ces deux-là, c'est-à-dire celui qui était au pied de la croix, et avec la Bienheureuse Vierge Marie, et celui qui est l'intelligence même de tout disciple, c'est-à-dire c'est lui qui comprend le projet de Dieu et qui devient le disciple par excellence, et puis l'autre, qui est le patron du collège apostolique, Simon-Pierre. Donc il y a à la fois, la personne de chaque croyant qui peut être dans le disciple que Jésus aimait. Nous sommes des disciples que Jésus aime. Et puis Pierre qui est l'institution, qui est l'Église. Voilà, les deux sont dans cet épisode. L'autre épisode est vraiment provoqué par Jésus parce qu'il l'a promis d'être en Galilée pour les attendre.
Oui, alors j'aimerais quand même vous poser... Question sur l'apparition du Christ au bord du lac de Tibériade. c'est le dialogue avec Pierre. Entre le Christ et Pierre, par trois fois, Pierre, m'aimes-tu?
Bah, c'est pour le rétablir en grâce après sa triple trahison. Avant que le coq
Pierre,
chante
m'aimes-tu?
Deux. Avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois, c'est dans le témoignage des évangiles.
C'est pour effacer cette faute.
Effacer, oui, mais dans le sens de la surmonter pour rétablir. Il est rétabli en grâce parce qu'il a déjà reçu le ministère des clés avec les apôtres, dans le témoignage de saint Matthieu. On voit bien que c'est lui qui prend un peu la tête, etc. Puis il a un enthousiasme pour Jésus, mais il a renié Jésus par trois fois. La trahison est énorme. Il va jusqu'au bout, lui aussi. Autant Jésus va jusqu'au bout en nous aimant, autant Pierre, non, je ne le connais pas, non, mais pourtant tu as une voix, avec ton accent, on te reconnaît, non, je ne connais pas cet homme. Et il est rétabli en grâce. Il est guéri, il reçoit le collyre de la parole de Dieu qui panse les plaies de ses larmes. Trois fois. M'aimes-tu? Et il est étonné. Mais tu sais que je t'aime. Oui, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait cette triple réparation afin que il puisse être le meneur de la barque de l'Église. C'est une exigence pour nous d'assumer que nous sommes pécheurs. Pécheurs dans le sens de victimes du péché, de notre péché, ou des agressions que le diable propose et qui deviennent, quand nous y consentons, des péchés. Lui n'en a pas été exempt. C'est bien. Vous voyez, s'il avait été un surhomme, s'il était le plus parfait, sans défaut, sans péché, sans tâche. Non, c'est Jésus qui est sans tâche et sans péché. Ceux à qui il confie le ministère du pardon des péchés, ou tout simplement de dire l'amour de Dieu, ceux qui sont heureux de vivre avec Jésus, ce sont des pécheurs. Et si lui, le premier d'entre nous, finalement, comme Thomas, elle s'est dit tout à l'heure aussi premier, ou Marie-Madeleine, ont tous été désignés comme des pécheurs, comme des gens qui ont des tas de problèmes avec eux, et bien ce sont nos aînés, ce sont ceux qui marchent devant nous et qui nous conduisent à la lumière de Jésus. Et c'est très important, très très important. Mais l'Église catholique le dit aussi, c'est pas seulement moi, je veux dire, que les témoins de la foi, ceux-là, ceux du commencement de la prédication de l'Évangile, ou tout simplement de l'accueil de la victoire du Christ en tant que l'amour de Dieu, tous ces serviteurs de la parole sont des gens qui ont connu le péché, l'humiliation du péché et la restauration de la grâce par Jésus lui-même.
Alors, je propose d'aborder la dernière apparition en Galilée sur une colline justement de Galilée. Monsieur le pasteur Joly.
Ah oui, alors là, c'est dans tous les évangiles et c'est dans les actes aussi. C'est-à-dire que Jésus avait dit, par exemple, je prends le témoignage de saint Marc au chapitre 14, « Mais après m'être relevé, je vous précéderai dans la Galilée. » Donc, et d'ailleurs, c'est l'ange aussi qui rappelle, dans saint Luc, ou les deux anges, il vous avait dit, et vous irez le dire aussi aux apôtres, qu'il vous attend en Galilée. C'est-à-dire qu'il va les rassembler, non pas au tombeau, ça ne sert à rien d'aller au tombeau, c'est bon une fois pour toutes, là, on l'a vu qu'il était vide, et donc il est vide, il n'y a plus rien à y chercher. Et maintenant, il faut chercher le vivant qui nous attend. Et il nous attend sur une montagne, la montagne de Galilée, qui est l'ancien, toute la Galilée est aussi le lieu de sa prédication pendant 3 années, et pas d'ailleurs pas seulement la Galilée, mais entre autres. Et Jésus va donc réunir les siens pour les envoyer en mission et pour partir, c'est le moment de l'ascension. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de la Galilée, c'est que la Galilée, c'est la terre de mission de l'Église, parce que Jésus y a rassemblé ses apôtres, les a envoyés en mission, en leur assurant qu'il serait avec eux jusqu'à la fin des temps. C'est la finale de saint Matthieu, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous, là,
dans cet épisode.
Dans saint Matthieu.
Dans
oui.
cette apparition.
Oui.
C'est dans saint Matthieu.
Oui,
et quelle mission confie-t-il à ce moment-là, particulièrement dans cette apparition aux apôtres? Est-ce qu'il l'explicite?
Dans saint Matthieu. Parce que dans les autres, il faut revenir à la chambre close, là, où il leur demande de remettre les péchés. Mais dans saint Matthieu, non, ce n'est pas un développement, c'est encore une autre perspective, on va dire, une autre tradition. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et là, il n'y a pas de la dimension de pénitence et de pardon des péchés. Bien sûr que ça va de pair, mais ce n'est pas tout un programme, ce n'est pas une vision programmatique du travail de l'Église. C'est les trois axes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire l'amour de Dieu ne se limite pas à quelques-uns. L'amour de Dieu est destiné à tous, même à ceux qui apparemment ne devraient pas être dans le champ de vision de Dieu ou le champ d'action de l'Église. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, c'est-à-dire ancrez-les, associez-les à la victoire de Jésus à la croix, à la résurrection. Le baptême nous associe à la victoire de Jésus, nous fait devenir enfants de Dieu, et c'est toujours l'initiative de Dieu d'ailleurs. Et enseignez-leur, c'est-à-dire qu'il y a une parole qu'il faut donner. Et l'enseignement, c'est quoi ? Ce n'est pas une philosophie, une vision de l'homme et du bonheur. C'est ce que je vous ai prescrit. Alors là, il suffit de reprendre toutes les pages précédentes. Il y a l'enseignement de Jésus, les béatitudes et tout ce que vous voudrez, le sermon qui dure longtemps dans le sermon sur la montagne, mais il y a tellement d'autres occasions. Et c'est ça que Jésus a prescrit et qui est la continuation de ce qui a été prescrit au peuple premier de l'Alliance.
Pasteur Alain Jouly, je vous propose une dernière pause musicale, selon votre choix, avant d'évoquer la dernière apparition, avant bien sûr celle de l'Ascension, mais une dernière apparition à Jérusalem lors d'un repas. Qu'avez-vous choisi ?
J'ai choisi une petite pièce d'orgue, qui est numérotée 734, sur un choral de Luther, « Nun freut euch, lieben Christen Gemein ». Réjouissez-vous, chers chrétiens assemblés. Et c'est un petit prélude d'orgue. La destination, la fonction d'un prélude d'orgue, c'est d'indiquer la mélodie d'un chant qui va être ensuite entonné par l'assemblée. Mais on peut considérer que c'est un petit peu plus. C'est une sorte de petite prédication joyeuse sur l'invitation à recevoir la victoire du Christ dans nos vies. Et c'est interprété par Olivier Vernet sur un orgue, imitation des orgues baroques allemandes de l'église Saint-Louis de Vichy. Le facteur d'orgue est Aubertin. Voilà, c'est Olivier Vernet qui joue cette petite pièce musicale donc pour la joie de Pâques.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette discussion avec le pasteur Alain Jouly sur les apparitions de Christ. Le jour de Pâques, juste, jusqu'à l'Ascension. Nous avons deux messages d'auditeurs. Un premier message, les apparitions du Christ décrites dans les Saintes Écritures, étudiées par Monsieur le pasteur Joly et présentées ce soir, mériteraient peut-être que celui-ci fasse une nouvelle émission.
Avec plaisir, je reviens. Merci à cet auditeur de nous écouter et de voir continuer d'approfondir ces questions. C'est vrai que là, on le fait dans notre très heureux dialogue, j'espère, mais c'est jamais terminé. Et il n'y a pas de réponse, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de réponse évidente. Tout est en cheminement et c'est bien. Mais il y a quand même la foi de l'Église assurée du témoignage des Écritures saintes.
Et puis une auditrice, l'âme ne se détache pas du corps immédiatement après l'arrêt du cœur, écrit-elle. Il y a des processus de destruction des cellules et c'est seulement après que l'âme quitte le corps. Lorsque ma mère est morte, elle avait un visage paisible mais neutre. Lorsque je l'ai vue plus tard, elle avait un sourire angélique. La lumière divine s'est imprimée sur son visage, écrit cette auditrice.
Merci, c'est un juste et beau témoignage qui n'appelle pas de commentaires. Merci.
Monsieur le pasteur, une question, deux questions. D'une part, sur suite à vos explications sur saint Thomas. Le Christ, je ne sais plus à quel moment, dans quelle apparition, dit que pour être sauvé, il faut avoir la foi.
Toute l'Écriture nous enseigne cela.
Bon.
C'est bien sûr, Jésus l'enseigne, mais c'est déjà même chez les anciens du peuple juif. C'est dans le témoignage, c'est dans l'Ancien Testament déjà ça. Il y a une exigence de la part de Dieu d'une réponse, d'une comment dire cela le plus. Dieu n'impose pas. Il faut aussi une responsabilité de l'homme. Et la foi est du côté de l'homme. La confiance.
On dit aussi que la foi est un don de Dieu.
Et évidemment, c'est les deux.
C'est contradictoire.
Non, parce que ça veut dire que l'homme accepte de s'ouvrir à quelque chose qui lui est offert et qu'il en prend sa part. Mais ça ne détruit pas la responsabilité humaine, ça ne détruit pas la conscience, ça ne détruit pas l'intelligence.
C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il attend de l'homme, c'est qu'il s'intéresse, qu'il pose des questions,
oui,
qu'il se renseigne.
Qu'il ait confiance. Oui, qui se renseigne peut-être, mais là,
qu'il ne soit pas indifférent.
On peut rester athée et agnostique en consultant des dictionnaires de théologie ou des anciens.
On peut faire l'effort de rechercher quand même.
Oui, mais beaucoup, je crois, le font et sincèrement, y compris des gens qui ne sont pas pleinement de la foi de l'Église. C'est très plus que respectable. Mais l'idée que la foi soit un don de Dieu ne veut pas dire que ça tombe sur des gens comme ça, et puis pas sur d'autres. En fait, c'est une proposition, la foi est une proposition de la part de Dieu, que nous ayons confiance en lui. Et on le voit très bien, justement, avec le témoignage de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il faut aussi toujours, comme Jésus le fait au pèlerin d'Emmaüs, scruter tout ce qui concerne Jésus, donc la foi, le salut, etc., dans les Écritures. Et quand il parle des Écritures, c'est bien l'Ancien Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament à l'époque, évidemment. Et ça vient après. Mais la foi, si elle est donnée par Dieu, par la médiation de l'Esprit, elle rejoint la recherche de l'homme. C'est comme une rencontre. Et il est nécessaire de la part de l'homme, de l'humain, d'y consentir à ce cadeau. C'est pour ça que c'est un don de Dieu. Et qu'ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Je dirais, ça n'est pas un absolu contraignant. C'est au contraire, c'est une libération, une joie d'être touché par une grâce qui donne la foi et elle est possible à tout être humain.
Monsieur le pasteur, que devons-nous faire de ce temps pascal ? Justement, nous arrivons au terme de cette émission. Il y a encore un ou deux points à aborder avec vous, mais que devons-nous faire très concrètement, après toutes vos explications sur les apparitions du Christ, le message du Christ, l'envoi en mission, l'institution du sacrement de la pénitence? Que devons-nous faire, nous, de ce temps pascal?
Comme tous les temps liturgiques que l'Église a institués dans les commencements de l'Antiquité chrétienne, voire seulement au Moyen-Âge, comme tous ces temps liturgiques, donc l'Avent, Noël, l'Épiphanie, le carême, le temps pascal dont nous avons parlé des origines, c'est-à-dire de ce à quoi il renvoie, les apparitions du ressuscité, le temps de Pentecôte, le temps de la Trinité, tout ce déroulement, c'est nous faire entrer toujours davantage dans la contemplation de qui est Jésus pour nous et qui nous sommes devant Dieu. Il n'y a pas un programme des exercices particuliers à faire durant le temps pascal, sinon de ne pas cesser cette générosité, cette attention à l'autre, à laquelle nous avons été pressés par le temps de carême. N'est-ce pas, le temps de carême, il va falloir être de réfléchir sur soi-même, faire introspection, etc., se priver de certaines choses, aller davantage vers le prochain. Ben pourquoi ça va s'arrêter le jour de Pâques ou à la Pentecôte? Non, c'est toute l'année, avec plus ou moins d'intensité peut-être. C'est vrai que l'Église propose cela, toutes les Églises, hein, orthodoxes, catholiques, protestantes, proposent des temps liturgiques spécifiques où on réfléchit spécialement à ce que le Christ a fait à tel ou tel moment de son incarnation. Mais la vie chrétienne n'est pas modulée, elle n'est pas adaptée à ce temps liturgique, comme si ben, maintenant c'est fini, on va passer à autre chose que la générosité, on va juste se contenter de chanter des louanges dans les églises en entendant de la belle musique. Tant mieux si on le fait, mais il faut être chrétien toute l'année, et avec le même enthousiasme, la même foi, la même confiance, pour reprendre ce mot. Moi, je trouve que c'est important de dire les choses avec douceur, comme ça. C'est la confiance que Dieu nous fait du bien, qu'il a accompli un mystère salutaire dans la présence de Jésus, et que cette présence de Jésus est toujours là, par la foi et par la présence de l'Esprit. Il se rend présent dans l'écoute ou la lecture de l'Écriture sainte. Ça, c'est très, très important. Il faut bien que je sois quand même un luthérien à ce micro. Vraiment, c'est également important que la vie sacramentelle. Vous avez parlé de sacrement de pénitence, mais bien sûr, les conséquences du baptême, qui sont de fréquenter la Sainte Eucharistie, et les autres sacrements, s'il y en a d'autres dans les différentes dénominations chrétiennes. Voilà, donc pour moi, c'est finalement peut-être avec plus d'intensité lire les passages qui concernent la vie de Jésus selon Carême, Pâques et Pentecôte, etc., Noël. Mais en fait, la vie chrétienne doit être une marche toujours en avant vers la stature du Christ à laquelle nous pouvons prendre notre part.
Il semble que le Christ ressuscité dans ses apparitions n'évoque pas réellement l'Eucharistie.
Non, non.
Et les disciples d'Emmaüs.
Oui, mais c'est nous.
Comment comprenez-vous? Comment l'expliquez-vous?
C'est nous qui pouvons interpréter qu'il a fait pour eux, avec la fraction du pain, une ouverture à ce que désormais sa présence sera dans l'Eucharistie. Mais ce n'est pas l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie est instituée avant la croix.
Donc, il n'y a pas besoin de revenir.
Ah non, 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 une fois que c'est fait. Mais vous ferez ceci en mémoire de moi quand je serai ressuscité. Et ce qui est important, alors peut-être juste de dire cela, Jésus préside nos Eucharisties, nos Saintes Communions, Saintes Cènes, etc., en tant que ressuscité. On ne se transporte pas au repas juif dans lequel il institue sa présence, ceci est mon corps, ceci est mon sang. On revit tout cela, mais présidé par le Christ ressuscité. Ça, c'est extrêmement important. On n'est pas transporté dans le passé, on ne fait pas de l'archéologie. On vit avec Jésus le vivant. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est vivant. Et donc, c'est lui qui préside nos Eucharisties. Et il l'a institué avant sa croix, parce que il a voulu, en quelque sorte, accomplir tout le dessein d'amour envers le peuple juif, puisque c'est un repas juif, qu'il transforme, qu'il rehausse en un repas salutaire. Et le salut vient par la croix. Donc maintenant, l'institution de l'Eucharistie à partir du repas de libération du peuple juif, la victoire de la croix et le ressuscité qui préside nos Eucharisties, le vivant, jusque dans l'éternité. Nous entrevoyons le ciel et l'éternité dans ce repas.
Dernière question. Dans Jean, c'est Jean 20-30, hein, Jean écrit « Il y a encore beaucoup de signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. »
Oui. C'est une très belle phrase, évidemment, comme tout ce qui est dans l'Écriture. Mais c'est alors deux choses, peut-être. La première, c'est que si on en avait rajouté, c'est que ça aurait dû être une nécessité salutaire pour nous. Le corpus, il est suffisant. Voilà. D'ailleurs, c'est les anciens qui l'ont dit une fois pour toutes, et le même Saint Jean, si c'est le même, qui conclut l'Apocalypse en disant que l'on ne doit ni retrancher ni ajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est, voilà, c'est la parole de Dieu. Il ne manque rien à ce que Dieu veut que nous sachions de lui, du mystère d'amour, de Jésus, de l'Esprit, de la vie de l'Église, etc. Il ne manque rien. Puis la deuxième chose, c'est que ça se poursuit, ce verset, et c'est la deuxième fois que Saint Jean le dit, ces choses vous ont été rapportées, elles sont écrites afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Voilà, donc le témoignage des Écritures saintes, comme ensuite, bien sûr, la réalité sacramentelle et la vie de l'Église, sont les lieux où notre foi nous amène à la réalité de la vie éternelle. C'est l'orientation, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire la vie en Dieu. L'union mystique avec Dieu. Ça se fait sur le fondement de l'Écriture et sur le fondement des sacrements.
Pasteur Alain Joly, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes un spécialiste, bien sûr, de Jean-Sébastien Bach. Vous avez publié à cet égard « Prier 15 jours avec Jean-Sébastien Bach chez Nouvelle Cité » et puis aussi « Bach, maître spirituel » aux éditions Talendier. Merci beaucoup à vous, Pasteur Alain Joly. Nous allons terminer par un dernier choix musical. Pour nous accompagner jusqu'au terme de cette émission, ce jour de Pâques, qu'avez-vous choisi ?
Sans commentaire autre que la désignation du titre et des interprètes, j'ai choisi ce qu'on appelle couramment l'oratorio de Pâques, qui est en fait tout simplement une cantate pour la liturgie luthérienne du dimanche de Pâques de 1725 à Leipzig, et qui a été reprise plusieurs fois d'ailleurs par Sébastien Bach. Et c'est une interprétation de musiciens allemands de Pforzheim sous la direction de Rolf Schweitzer. Voilà, la cantate commence par les mots « Kommt, eilet und laufet »« Venez, hâtez-vous et courez » courez à la joie de la résurrection, courez au tombeau, non pas au tombeau vide, mais courez à accueillir le Seigneur qui est vivant. Et c'est la cantate numérotée 249 dans le catalogue des œuvres de Bach, « Oratorio de Pâques ».
Merci beaucoup à vous, monsieur le pasteur, d'être venu ce soir en direct. J'en profite pour souhaiter une très joyeuse Pâques à tous nos auditeurs. Très bon dimanche soir à vous tous. Thank you.
Thank you. Pour conclure ce libre journal des amitiés françaises, nous écoutions à l'instant la première partie de l'oratorio de Pâques de Jean-Sébastien Bach, dans une version dirigée ici par Rolf Schweizer et tirée d'un coffret de disques compacts brillantes classiques. Rendez-vous la semaine prochaine, chers auditeurs, et pour un nouveau libre journal des amitiés françaises. Vous venez d'entendre le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 5 avril 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.